Et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique numéro 85. Quel plaisir de revoir cette lumière rouge dans le studio. Studio agrémenté par une nouvelle venue, un nouvel événement, puisque la famille Divergence numérique s'agrandit avec la présence de Jonathan Rouche. Bonsoir Jonathan.
Bonsoir Pascal.
Alors, je vais te laisser... faire le sommaire justement de cette divergence numérique 85. Un petit coucou aussi à ceux qui la proposent, à Gilles Gouget, repose-toi bien dans ton sofa, à aussi Anaël Navarro, repose-toi bien et puis reviens-nous vite aussi. Et puis à vous, auditeurs, chers net auditeurs qui nous écoutez sur le 13.9 et puis sur Radio Escapade maintenant 104.1 103.3 et puis aussi donc net auditeur francophone belge suisse québécois, enfin tous ceux qui parlent français dans cette bonne vieille terre. Sommaire.
Alors nous allons commencer avec la revue de presse de l'April présenté par Emmanuel Charpentier et Luc Fievier. On enchaînera avec quelques actualités, notamment le passage à la gendarmerie sous Ubuntu. Ensuite, nous retrouverons l'habituelle capsule de la Voix du Libre, les Québécois de CKIA. Cette fois, ça sera sur Canonical, éditeur de la distribution Ubuntu. Et on enchaînera sur les nouvelles logicielles pour finir par l'agenda du libre.
Effectivement, agenda du libre, mais tout de suite, ce sont les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Nouvelles du front avec la revue de presse hebdomadaire de l'April, april.org, faite par Emmanuel Charpentier et Luc Fievier.
Donc, revue de presse de l'April, semaine 43 de l'année 2010. Donc, au sommaire aujourd'hui, donc un appel à fermer les sources, c'est un peu étonnant. Une question, c'est bientôt tous à poil sur Internet ou pas? Autre question, à voter ou pas? L'App Store ne carbure pas au GPL, Google a des puces. Les nouvelles du front donc sur la guéguerre mondiale dont on parlait déjà la semaine dernière. Le directeur de l'informatique de Marseille donc est sur le grill, et c'est le grill de l'April. Ensuite, Geeks Not Dead, 6 enfants investissent une cyberbase. Et PHP fait salon. Donc on commence par PHP fait salon.
PHP fait salon, bonjour Luc. Donc forum PHP 2010, la FUP reçoit en exclusivité SkySQL AB et Monty Programme AB.
La FUP, c'est l'association française des utilisateurs de PHP.
Tout à fait. C'est un article sur Programmé de Frédéric Mazué et qui donne le sommaire des conférences qui vont avoir lieu en novembre. Donc c'est la dixième édition du forum qui fête les 15 ans de PHP. Donc le PHP, on aime, on n'aime pas, j'aime pas, mais c'est pas grave. C'est une association qui fait des bonnes choses. Le PHP, on peut faire plein de bonnes choses avec. Donc éventuellement, allez consulter. Il y a le programme des gens qui sont invités et il y a de la belle pointure.
Un PHP, donc c'est un langage qui sert à faire des trucs sur internet, des pages internet et ce genre de choses.
Tout à fait, oui, ça j'oublie toujours de l'expliquer, c'est Pretty Homepage à l'origine, hein, des jolies homepages, hein, si vous voulez faire des compteurs qui défilent, c'est magnifique. Et aujourd'hui avec PHP on fait des choses très très avancées, des bases de données de folie et très compliquées. Bon, la machine à gaz on peut faire, il n'y a pas de souci, mais on peut faire aussi de très belles choses. C'est le langage par excellence du net, la machine de course qui existe le plus sur les bécanes des geeks.
Nouvelle de Sud-Ouest, les enfants initiés, donc c'est un article de Philippe Rebex. Alors bon, c'est pas une nouvelle fabuleuse, il s'agit de 6 enfants de maternelle qui ont été initiés au logiciel libre, on les a mis devant Linux et on fait utiliser toute une série de logiciels. Alors bon, évidemment, ça va pas révolutionner la planète, mais ça a quand même un intérêt.
C'est super intéressant. En gros, on montre dans un petit article assez court et assez bien explicatif, que même des enfants et leurs maîtres d'école sont capables d'utiliser du logiciel libre de manière assez avancée. Et il n'y a pas besoin d'avoir un geek barbu dans la salle pour arriver à mettre en place le petit pingouin et le GNU.
Voilà, donc les prochaines personnes qui vous diront GNU Linux, le logiciel libre, c'est trop compliqué pour moi, vous pourrez en conclure qu'ils ont des capacités inférieures à celles d'enfants de 6 ans. Geeks Not Dead, donc un article super intéressant, assez long, sur internetactu.net, un article de Jean-Marc Manac.
Bah, c'est la prochaine révolution, la révolution du DIY. En anglais, c'est Do It Yourself. En français, c'est Faites-le vous-même. Et en l'occurrence, c'est Faites-la vous-même, faites-vous-même la révolution. C'est une révolution, c'est tout un article assez long qui explique toutes les choses qu'on peut faire chez soi et qui commence tout simplement en expliquant qu'une des premières choses que les gens ont appris à faire chez eux dans cette révolution, c'est le logiciel libre. Donc c'est un très bon point de départ qui ensuite part sur beaucoup de choses à foison, avec des petites vidéos associées, avec des explications associées. Ça va de la voiture au club Fab Lab pour fabriquer soi-même des machines, y compris en Afghanistan.
Et aussi de la couture, il parle de Etsy, qui est un très gros site anglophone qui permet aux gens qui font de la couture de vendre leur, de faire des boutiques et de vendre leur production.
Et effectivement, beaucoup de choses, comment faire parler les plantes avec un petit appareil qui mesure les douleurs, enfin les sentiments des plantes, des choses un peu de tout. En tout cas, des plus intéressants, allez jeter un œil sur internetactu.net.
Alors maintenant, on va parler du directeur informatique de Marseille.
Oh, effectivement, on en avait déjà parlé un petit peu. C'est un site, pour le coup, anglophone, ozor.eu. Et c'est un article de Geach Ilenius, oh là là, mon Dieu, et qui reprend essentiellement un article de presse, enfin, un communiqué de presse de l'April, qui attaque la ville de Marseille et son directeur de département informatique, qui, l'ancien directeur du service informatique avait choisi du logiciel libre pour les plateformes logicielles de la ville de Marseille, le nouveau directeur informatique. On s'en amusait en parlant de compétences et il avait dit lui-même que voilà, il n'avait pas les compétences pour mettre en place du logiciel libre. C'est rageant, on va peut-être l'envoyer vers les écoles, il y a des enfants de 6 ans qui sont capables de faire des choses.
Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en fait il y avait vraiment tout un projet dans la mairie de Marseille pour migrer, un projet qui était déjà avancé, des équipes qui avaient déjà été formées, qui a déjà commencé le machin, et voilà, il y a du retournement, c'est vraiment une affaire de chapelle, avant toute chose.
Surtout que les règles des marchés publics sont assez contraignantes, et là, pour le coup, il semblerait qu'il y a vraiment eu un dérapage, donc c'est pas juste un problème de compétences, pour le moment, c'est aussi un problème de loi et de règlements qui auraient été en frein.
Un article du Monde sur donc une action en contrefaçon de Gemalto contre l'Android de Google. Gemalto, c'est une entreprise française qui fait des puces de cartes à puces, qui est une grosse boîte, hein, qui a des filiales un peu partout. Et là, ils font un truc qui n'est pas très propre.
Non, ils attaquent par l'intermédiaire de leur filiale américaine. Parce qu'en Amérique, on a la capacité d'avoir des brevets logiciels. On vous en a parlé, on vous en reparlera. C'est les grandes affaires du moment. Et là, en l'occurrence, il faut croire qu'ils avaient envie d'attaquer le gâteau. Hein. Il y a un gros gâteau qui s'appelle Google. Tout le monde essaye de se faire des parts dedans. Et eux, ils attaquent Google aux US. Alors, pas bien expliqué, mais en gros, il semblerait qu'ils les attaquent parce qu'ils ont fait du logiciel qui tourne sur des microprocesseurs. Donc c'est aussi débile que ça, mais de toute façon, les brevets logiciels, c'est débile. Amusez-vous-en. Bon, avec un peu de chance, ils vont récupérer de l'argent, ça va leur faire plaisir.
J'espère que je ne prendrai pas un procès pour utiliser mes chaussures, parce que bon, ça va poser des problèmes. Donc on va passer rapidement sur ce qu'on appelle les nouvelles du front. On en avait déjà parlé les deux précédentes semaines. Hein. C'est la guerre chez les géants de l'informatique, Apple, Google, Microsoft, Oracle. Enfin, Microsoft est un petit peu hors du coup là-dessus. Donc, quelques nouvelles en vrac. Apple et Google donc, font cause commune sur la question des violations de brevets. Oracle donc, affirme que Google a copié de façon brute le code de Java.
Alors, moi, je me gausse parce qu'en fait, le fork, ils le disent eux-mêmes. Enfin, Google a volé du code, soi-disant. En fait, ils ont simplement récupéré ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des interfaces. Les interfaces, les manières d'accéder au code sont communes. Et donc, de fait, elles ont les mêmes noms, ont les mêmes signatures. Et la documentation s'en ressent énormément. La documentation va avoir beaucoup de choses en commun avec la documentation officielle. Donc, ils attaquent quelque chose qui me paraît complètement à la ramasse. Et les juges vont certainement les renvoyer dans leur pénate. Enfin, d'après ce que je sais de l'histoire de ces choses-là, le code Unix a été attaqué de toutes parts sur les mêmes problématiques. Il n'y a pas de raison que ça change là. En tout cas, ils attaquent et ils font parler d'eux. Il y a moyen de faire de l'argent.
Alors, on va parler maintenant de l'App Store. C'est un article de l'informaticien.com, donc qui s'appelle le VLC, un passage éclair sur les terminaux d'Apple, par Johanna Godet. Donc VLC, c'est ce logiciel qui permet de lire des médias, de la vidéo, de la musique, plein de choses, un logiciel léger, logiciel libre bien sûr. Je sais qu'il y a eu des guerres un petit peu chez VLC parce que certains l'ont mis en forme, tourné sur le matériel Apple qui est super fermé, d'autres trouvaient que c'était un peu sacrilège, mais manifestement ça va pas rester très longtemps.
Oui, ils l'ont fait tourner, je sais plus qui exactement l'a fait tourner au final, mais il est apparu sur l'App Store il y a pas très longtemps. L'App Store pour que les gens puissent l'installer sur l'iPhone, et chose amusante, pour qu'ils puissent lire des vidéos, et un effet secondaire, c'est même lire du Flash. Ce qui, d'habitude, le Flash, c'est les petites choses qui bougent à l'écran quand vous allez sur Internet, et d'habitude, Steve Jobs avait interdit formellement que ça puisse tourner sous iPhone. Bon, ça, c'est un effet secondaire, mais le problème, c'est pas ça, c'est surtout que VLC est sous licence libre, hein, licence libre assez stricte, la GPL, et les droits d'utilisation, les droits de mise en place de l'App Store sont contradictoires légalement. On ne peut pas mettre sur l'App Store légalement un logiciel sous GPL. Ça avait déjà été tenté il y avait quelques temps avec un jeu de Go. Le jeu de Go avait été retiré par Apple. Et là, le VLC, Apple l'a annoncé, va être retiré aussi. Enfin, c'est ce que tout le monde en attend. Parce que les gens de l'iPhone, ont montré, regardez, VLC sous GPL, l'App Store ne permet pas de GPL. Faites quelque chose, les gars, et Apple va le retirer.
Donc, une petite nouvelle qu'on n'a pas sourcé, mais que j'ai lu aujourd'hui, qui est assez intéressante sur ces questions de smartphones. Aux États-Unis, les smartphones sous Android ont complètement explosé l'iPhone. Ils ont, je crois, quelque chose comme 43% de part de marché d'iPhone aux États-Unis. Donc la prédominance de l'iPhone n'est pas aussi solide qu'on voudrait bien le croire, et ça pourrait changer assez rapidement.
Dans quelle mesure c'est pas tout simplement ça qui explique la course à l'argent ? Que ce soit Oracle qui attaque Google sur Android, mais Gemalto aussi, le fabricant de puces, de cartes à puces, qui attaque aussi sur les problématiques liées, je me demande si c'est pas simplement tout le monde qui voit la poule aux œufs d'or en train de grossir et grossir et grossir et qui veut en avoir une part.
Article suivant, c'est un article en anglais de Stateline par Sun Green. Donc en anglais, ça fait « DC hacking raises questions about future of online voting ». Pour faire bref, donc, oui, te rigole pas. Donc pour faire bref, il y a une expérimentation sur du vote par Internet qui permet de favoriser des tas de trucs et de permettre aux gens de voter plus facilement sans bouger leurs fesses, également aux gens qui sont distants. Et
notamment aux militaires, il semblerait que c'était une des causes de la mise en place de ce genre de trucs-là.
Oui, parce qu'on ne peut pas tuer son prochain au bout du monde et remplir son devoir de citoyen en même temps. C'est incompatible. Et donc voilà, ils se sont dit, on va peut-être quand même tester la sécurité du truc. Donc ils ont demandé à des universitaires. Et les gars ont explosé le site et on sont rentrés dedans comme du beurre. Fait ce qu'ils ont voulu. Ils se sont même amusés à mettre la musique de leur université. Là. Et les types qui jouaient quand on ouvre le site, de ce que j'ai compris. Et personne ne s'est rendu compte de rien. Comme quoi, en fait, attention à pas grand-chose.
Vive la sécurité. Malheureusement, c'est la petite touche qui est négative là-dedans. C'est que il semblerait que le site était basé sur du logiciel libre avant tout. Et en l'occurrence, c'est utilisé à tort par les opposants qui font d'autres plateformes de vote et qui disent non, n'ayez crainte, nous, on va être sécurisés, on utilise du logiciel propriétaire, tout ce qui est fermé, personne ne pourra faire ça. Bon, on se gosse, on se marre, on rigole, mais en tout cas, ça, c'est un petit effet secondaire un peu indésirable. C'est pas compliqué de toute façon, on ne cherche pas, il ne faut pas faire de vote sur Internet de manière sécurisée. Vous n'y arriverez pas aujourd'hui et demain, c'est mal barré.
Donc, un article de Branchez-vous, écrit par Aude Bovin-Fillon. Donc, Branchez-vous, un article qui s'appelle Fireship, l'extension de Firefox, dévoile les identifiants de Facebook et de Twitter. Donc ça, c'est un type qui a des idées assez marquées et qui n'hésite pas à employer les gros moyens pour les démontrer.
En l'occurrence, un petit plugin Firefox qui s'installe comme un charme, j'ai pas testé, mais c'est ce qui semblerait, et qui vous permet de voir s'il y a des gens à côté de vous, dans votre réseau local, dans votre maison, dans votre entreprise, qui sont en ce moment connectés sur Facebook et Twitter. Alors, non seulement on peut voir qu'ils sont actuellement connectés sur Facebook et Twitter, mais surtout d'un clic de souris, on peut se loguer à leur place. Et ça va faire jaser. La solution est très simple, il faut que Facebook et Twitter utilisent des protocoles cryptés, ça existe depuis longtemps, ils les utilisent en partie, mais pas complètement. Et donc cette extension est faite là, c'est fait pour les forcer à passer à du crypté en plein. Mais en attendant, c'est rigolo, ça vous permet de vous connecter en tant qu'autrui, ça peut être assez rigolo, assez marrant.
Ça peut provoquer un certain nombre de catastrophes quand même. Mais en tout cas, c'est une méthode un peu barbare, mais en tout cas sans doute très efficace. Dernier article de cette revue de presse, blog de Jean-Marc Manac sur lemonde.fr, un des nombreux blogs du monde.fr, qui s'intitule « Journaliste, protégez vos sources ».
donc là qui parle de logiciel libre, mais qui surtout en parle dans un contexte original, un contexte politique, l'affaire Bettencourt. Il y a des journalistes qui sont des journalistes, qui n'ont pas forcément des geeks barbus, et ces journalistes sont fait piquer leur ordinateur, et de ce qu'on en sait, les contenus qui sont sur ces ordinateurs. Et bien là, Jean-Marc Manac, dont vous aurez peut-être noté, il a déjà écrit un autre article dans cette revue de presse, formidable ce monsieur, et il vous indique tout simplement quels sont les outils à utiliser potentiellement pour vous sécuriser et vous assurer que vous ne perdrez pas vos contenus ou que des gens qui ne sont pas supposés les connaître y auront accès. Donc si les services secrets d'un pays quelconque, étranger ou autre, accèdent à vos ordinateurs, en tout cas vous aurez plus facilement des copies des contenus qui sont sur l'ordinateur et vous vous assurez plus facilement que ces contenus ne seront pas accessibles par ces gentils services secrets.
Voilà, parce qu'il y a une grave épidémie de vol de matériel informatique ces derniers temps. Voilà, c'est fini. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci Emmanuel Charpentier et Luc Fievier de l'april.org où vous pouvez retrouver cette revue de presse. À noter aussi la Gendarmerie nationale qui migre tous ses PC vers Ubuntu. Plus de 85 000 ordinateurs, une paille. À toi Jonathan.
Oui, alors... Le cas est intéressant car la même gendarmerie est passée au client de messagerie Thunderbird il y a quelques années. Cette transition s'était plutôt bien passée et Mozilla Messaging avait même profité des nombreux retours de des forces de l'ordre, notamment sur le plan de la sécurité à cause des fonctionnalités précises demandées. Alors cette fois cependant, il ne s'agit pas d'un simple logiciel mais du système d'exploitation complet.
Oui, la gendarmerie nationale qui compte environ 100 000 personnes dans ses effectifs et environ 85 000 ordinateurs répartis dans 4 500 postes. Il s'agit donc d'un déploiement lourd et massif. Jean-Paul Château, commandant de la gendarmerie, explique, je cite, « Nous avons structuré le chemin de migration de manière à ce que nous puissions migrer 10 000 ordinateurs de bureau par an vers Ubuntu. D'ici 2015, nous espérons que 90% des ordinateurs tourneront sous Ubuntu. »
Jusqu'à présent, à peu près 7000 ordinateurs ont été migrés vers la distribution GNU Linux. Chaque poste ainsi reconfiguré devient un serveur local de fichiers, mais également d'applications et de définitions pour l'antivirus. But de la manœuvre, réduire autant que possible le nombre de serveurs nécessaires à ces opérations.
Et oui, pour accompagner l'ensemble de la migration, la gendarmerie a souscrit donc un contrat premium. Cette décision de la migration a été décidée quand Windows XP s'est manifestement approché de la fin de son support et que le passage à Vista s'est profilé. Le support de Windows XP s'arrête en 2014 dans sa forme étendue, mais il s'agissait clairement d'un produit en fin de vie. Le commandant Château a indiqué à ce sujet. Donc je cite toujours, le simple changement de Windows et Office vers Ubuntu et OpenOffice.org nous fait économiser 2 millions d'euros par an et puis aussi aux contribuables par la même occasion. Et cela ne se résume pas uniquement au coût donc des licences. Le fait que nous ayons plus besoin de ces 4500 serveurs départementaux dédiés signifie que les économies continuent de grandir.
Les avantages se comptent également en facilité d'administration pour la gendarmerie ainsi qu'une mise en place simplifiée des profils itinérants permettant ainsi au personnel de retrouver systématiquement le même environnement de travail personnalisé, quel que soit le poste utilisé. Le commandant indique que la motivation a été uniquement d'ordre financier car la gendarmerie ne rencontrait pas de problème particulier avec la précédente infrastructure.
Et oui, les intéressés pourront lire le communiqué de presse complet depuis le site de Canonical. Canonical qui va en être question puisque après notre pause musicale, sur les ondes de divergence numérique, une pause musicale faite avec un groupe assez proche d'ici puisqu'ils sont de Millau, ils font de la musique libre sous licence Creative Commons non commerciale Sampling Plus. C'est La Fibre. Du rap engagé, enragé. Et on va écouter Les Gardiens du Troupeau, extrait de leur dernier album produit en 2010 sur un album qui s'appelle La Fibre.
j'ai un réel problème avec l'uniforme où tout est bien droit et conforme, bien formaté, font leur métier. Obligé de constater que tous ces cons va se taper. Bleu, blanc, kaki, j'en verrai du mépris. Le ministère prend amer quand il débloque des fonds pour les militaires. Amer comme quand je vois leur bavure policière. Dans nos rues, c'est la guerre. Un policier surarmé, j'en désemparé. Dans les manifs, les CRS m'attraquent. Le premier qu'on chope, on le frappe. Pendant la technique d'attaque, je continue mes rimes comme ça. Crachant sur leur prime et leur quota. Alors mes temps, on n'adhère pas. Et la police des polices qui enquête sur les vices de forme d'un putain d'agent en uniforme. Comment ils étaient condamnés pour les crimes qu'ils ont fait. Trop peu d'affaires élucidées. Trop peu d'affaires élucidées. Les contrôles de police, arrestation, répression font monter la pression d'une jeunesse qui ne veut plus d'oppression. Au fond, ce n'est pas qu'une impression. Une arme autour de la ceinture, des bottes, un béret ou une casquette. À ta patrie, tu donnes ton futur. Tu obéis aux doigts et à la baguette. Tes opinions, tu les jettes aux ordures. Au garde à vous sous le drapeau, sous les sortes des bourreaux. J'ai fait du réplique, je prendrai pas les armes pour une nation antipathique. Antipatriotique. Leur uniforme taché de sang, ils avancent sans drapeau blanc. Au son de la trompette, garde à toi si tu sors du rang. C'est pour tous les déserteurs, conscients de leurs erreurs. Agir ou Côte d'Ivoire, ils sont punis par l'histoire. Ils ont envahi l'Afrique dans des endroits stratégiques. Tolérés au Rwanda, les massacres interethniques. Ils agissent comme les États-Unis d'Amérique. Tenant à la guerre en Irak est hypocrite et médiatique. Ils veulent qu'on fasse carrière dans leurs entreprises militaires. Mais on partira pas en guerre pour satisfaire leur soif des affaires. Le FAMAS sert à ramasser la caillasse. Ils entretiennent une menace pour rester en place. Je réclame l'insubordination générale. Faut la crache sur les médailles de ton caporal. Les croix de guerre et compensent le mal. Plus de conquêtes pour plus de recettes. La logique devient banale.
Banale.
L'armée une entreprise qui ne fait pas faillite. La paix une utopie qui restera inaccessible. La guerre est un secteur dynamique. Et ouais, on n'est pas prévu dans un monde paisible.
Paisible.
Souvent pris à partie, en raison de mon parti pris sur la notion de patrie. Ma tête est mise à prix. Mon apatrie, on est la cause, leur uniforme, la conséquence. Et peu importe le poids de nos pros, c'est notre seule défense. Légal et ouais, on ne fait pas partie de ceux autorisés à porter une arme. Mais sache que, pour nous, ce n'est pas la peine de négocier, vu qu'on ne veut pas la paix. Qu'on continuera à négocier, même gavé de palabrer. Et que si la distance diminue entre le double H et la calache, on lâche pas les mots et les affûte à la hache. Curé qui est limité. J'emmerde ton costume, j'emmerde tes coutumes. Et décris ce texte à titre posthume. Faire des vers c'est mon art, alors j'arme mon arc. Et on voit une rap attaque, on verse c'est mon arc. Est-ce contre mon argot, l'objectif pécho. Le scalp à sarco et à tous ces sbires en starco. Un trois pièces, une cravate, le pire des uniformes. La fibre soutient, encourage la séquestration des gros patrons. La mise en centre des centres de rétention. La destruction de toute forme de prison. Je prends le mic et accomplis mon devoir. Sur les agents de la norme au service du pouvoir. La fibre ouvre une parenthèse et la referme aussitôt. La conclusion de notre thèse se fera des sens et aussi beau.
Les gardiens du troupeau par le groupe La Fibre, extrait de leur album du même nom, La Fibre. Dernier album paru en 2010. On peut retrouver La Fibre sur le portail dogmazic.net/La Fibre, aussi sur notre site divergence-fm.org, rubrique Divergence numérique. Et puis merci à vous qui nous écoutez sur le 103.3, 104.1 de Radio Escapade, et puis Divergence FM 93.9, et puis aussi à nos net auditeurs de Belgique très assidus. On va poursuivre avec en introduction à ces nouvelles logiciels par la capsule de nos amis de La Voix du Libre, une capsule audio évidemment. Ils officient sur les ondes de CKIA FM à Québec sur le 88.3, et on va écouter un entretien donc avec Étienne Goyer de Canonical.
Bonsoir, je m'appelle Étienne Goyer, je suis de Montréal. Donc voilà, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Canonical. Comme la plupart d'entre vous le savent probablement déjà, Canonical, c'est le principal sponsor de la distribution Linux Ubuntu. Donc la distribution Linux Ubuntu, c'est la distribution qui mène présentement en termes d'utilisateurs sur le marché des postes de travail. C'est l'utilisation, la distribution, pardon, la plus répandue en termes d'utilisation de ce poste de travail. L'entreprise Canonical, c'est une entreprise qui a été fondée par un type qui s'appelle Mark Shuttleworth. C'est un Sud-Africain. L'entreprise a été fondée en 2004 Elle est localisée, le siège social est localisé à Londres. En 2004, évidemment, c'était une toute petite compagnie, environ une douzaine de personnes qui avaient été engagées pour Mark, pour finalement réaliser sa vision de ce que devait être une distribution Linux, ce que va devenir finalement Ubuntu. Depuis ce temps-là, l'entreprise a grossi, on parle considérablement. Ça fait, bon, l'entreprise a maintenant un peu plus de 5 ans. Il y a aujourd'hui un peu plus de 300 employés qui travaillent pour Canonical. Donc, évidemment, il y a les bureaux qui sont, il y a le siège social qui est localisé à Londres, où est située la grande partie de l'administration, ressources humaines, les ventes, et ainsi de suite. Il y a aussi, on a aussi deux bureaux à Taïwan et à Boston, qui sont principalement des bureaux d'ingénierie pour les services aux manufacturiers d'ordinateurs et aussi de développement pour la version mobile de Ubuntu. Et finalement, il y a aussi un bureau, et ça va être une surprise pour certains d'entre vous, on a un bureau à Montréal. Le bureau de Montréal, c'est un bureau qui a été ouvert en mai 2006. Le bureau de Montréal, c'est à l'origine, ça devait être le centre d'appel pour le service de soutien technique commercial de Canonical. Donc, Canonical, son modèle d'affaires, vendre des services connexes, des services à valeur ajoutée qui sont connexes à la distribution Ubuntu. Un de ces produits-là, c'est finalement le service de soutien technique. Donc, une ligne téléphonique pour recevoir de l'assistance technique ou encore de l'assistance technique par email, ainsi de suite. Le bureau en question, comme j'expliquais, a été ouvert en mai 2006. Moi, j'ai commencé à travailler chez Canonical en juillet 2006. J'ai été embauché à l'époque pour être un analyste de soutien technique. Depuis ce temps-là, j'ai pris du galon. Aujourd'hui, je suis un gestionnaire technique de compte. Donc, mon travail, c'est principalement d'être le répondant technique pour les grands comptes qui font affaire directement avec Canonical pour recevoir du service de soutien personnalisé, et ainsi de suite. Le bureau de Montréal, depuis 2006, sa mission a évolué. Maintenant, c'est plus seulement un centre d'appel pour le service de soutien technique. C'est la base principale d'opération pour l'ensemble des services professionnels. Donc, aujourd'hui, en plus du soutien technique, il y a aussi les services de gestion de compte, finalement, mon emploi. On a aussi des gens qui travaillent en prévente. Une partie des consultants sont basés à Montréal, et ainsi de suite. Canonical, c'est pas toujours, c'est encore un peu mystérieux dans l'esprit de certaines personnes, la relation entre Canonical, l'entreprise, et Ubuntu, la distribution Linux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ubuntu, c'est une entité qui est propre à elle-même, si on peut dire. Canonical, Ubuntu, c'est. Je vais reprendre au montage, il va falloir reprendre ça. OK, je repars. Donc, il pourrait être intéressant à ce moment-ci de clarifier un petit peu la relation entre Canonical, l'entreprise, et Ubuntu, la distribution Linux. Dans l'esprit de, c'est pas tout à fait clair dans l'esprit de certaines personnes. Généralement, les distributions Linux sont le produit, en tout cas celles qui sont commerciales, sont le produit d'une entreprise. Donc, il y a une entreprise, comme par exemple Red Hat ou Novell, qui ont une distribution Linux. Red Hat Enterprise Linux d'un côté, SUSE Linux de l'autre. Et puis, bon, la distribution en question, c'est un produit directement de l'entreprise. L'entreprise gère 100% de la direction du produit, et ainsi de suite. Dans le cas d'Ubuntu, c'est un peu différent. Ubuntu, c'est d'abord et avant tout une communauté. Donc, c'est pas directement le produit de Canonical. Ubuntu, en tant que communauté, a ses propres structures de gouvernance. C'est une communauté qui est ouverte à la participation de n'importe qui, et pas seulement les gens qui travaillent pour Canonical. Bien sûr, Canonical est impliqué là, de façon très très active dans le développement d'Ubuntu, et par conséquence, Canonical est impliqué de façon très active dans les structures de gouvernance de la communauté Ubuntu. Mais Ubuntu en soi, c'est pas quelque chose qui est entièrement la propriété de l'entreprise Canonical. Ça a aussi sa propre destinée, comme j'expliquais, ses propres structures de gouvernance, sa propre communauté. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans la communauté Ubuntu qui sont pas des employés de Canonical, qui le font parce que c'est un projet libre qui correspond à leurs valeurs, et ainsi de suite. Donc, ben, Canonical, dans tout ça, par contre, soutient de façon assez intensive là, la communauté Ubuntu, entre autres en embauchant un très grand nombre de développeurs à temps plein. Je dirais qu'à l'heure actuelle, la grande majorité du développement d'Ubuntu est fait par des employés de Canonical. la contribution de la communauté, évidemment, c'est très, très significatif. Et puis, ça se fait aussi à plusieurs niveaux. Donc, c'est pas seulement au niveau du développement de la communauté Ubuntu, c'est aussi une communauté qui est très, très active en termes d'évangélisation pour faire la promotion de Ubuntu, faire la promotion des logiciels libres, ainsi de suite. On a aussi beaucoup de travail qui se fait au niveau de la des bugs, par exemple, des traductions. C'est une communauté de développement qui est très, très large et puis qui n'est pas seulement une communauté de développement technique. Maintenant, Yannick voulait que je vous parle un peu de ma journée typique, de mon emploi chez Canonical, ce que je faisais, c'était comment comme entreprise, et ainsi de suite. Il voulait entre autres que je vous décrive une journée typique chez Canonical. Je trouve ça un peu difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de journée typique chez Canonical, malheureusement. Canonical, c'est une entreprise qui est encore très jeune, donc c'est une entreprise qui a seulement 5 ans. On est une entreprise qui a seulement 300 employés, c'est tout petit pour un distributeur Linux. C'est donc, par contre, on est une entreprise qui a beaucoup, beaucoup d'ambition et puis qui a beaucoup de visibilité, qui a un bon positionnement sur le marché, et ainsi de suite. Donc, on peut s'imaginer que chez Canonical, ça va vite. Il y a beaucoup de travail, la nature du travail change de façon régulière, et ainsi de suite, ce qui fait qu'il y a pas vraiment, je peux pas vraiment vous décrire de journée typique. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler chez Canonical, j'ai fait de tout. Donc, bien sûr, j'ai fait du support technique, mais j'ai aussi fait de la formation, j'ai participé avec l'équipe de développement, j'ai donné des présentations, j'ai fait de la prévente. La prévente, c'est quand on assiste les vendeurs dans le processus de vente. Bref, j'ai fait un peu de tout. Tout dépendant des opportunités qui se présentent, ben voilà, ça prend quelqu'un pour les prendre en main. Donc, les employés chez Canonical, généralement, c'est des gens qui sont très volontaires, qui sont très autonomes, qui sont surtout très motivés parce que, bon, voilà, il y a beaucoup de travail. Une autre particularité de Canonical comme entreprise, c'est qu'une très grande partie des employés font du télétravail. Donc, je dirais que c'est à peu près les deux tiers des employés qui sont en télétravail, qui travaillent de la maison. Il y a à peu près seulement un tiers des employés qui travaillent à partir d'un bureau. En conséquence, ça pose un certain nombre de défis particuliers, et le principal étant la communication. Donc, comment on fait quand on est... quand on a une entreprise qui couvre 24 fuseaux horaires, des gens qui travaillent à des fuseaux horaires différents, ainsi de suite. Ensuite de ça, des gens aussi qui proviennent de des cultures différentes, des langues différentes, tout ça, bon, voilà. Comment on fait pour finalement communiquer ensemble? Ben, chez Canonical, la communication, ça passe principalement, et ça, c'est un autre... particularité assez intéressante de la compagnie, ça passe principalement par IRC. Donc, une grosse partie de la communication interne au sein de l'entreprise, ben voilà, ça, on fait ça sur IRC. Le matin, une des premières choses que je fais en lisant mes emails, c'est de me connecter sur IRC. Je lis les backlogs des discussions dans les canaux qui m'intéressent, les canaux de l'entreprise qui m'intéressent, ainsi de suite. Je réponds aux pings que je reçois sur IRC et tout ça. Ça fonctionne surprenamment bien. En fait, on a une bonne esprit de camaraderie. La communication en autant que je puisse dire, la communication est aussi bonne pratiquement que dans une entreprise où on travaille physiquement tous au même endroit. Donc, je présume qu'on doit faire quelque chose de bien à ce niveau-là ou le médium IRC se prête bien à ce type d'utilisation-là. Probablement une combinaison des deux. Donc, une autre particularité de Canonical, c'est que considérant la nature internationale de l'entreprise, ben on voyage beaucoup. Donc, moi, j'ai voyagé, entre autres, pour donner des formations. J'ai voyagé pour participer à des réunions de compagnie, bien sûr, pour participer à des meetings avec la communauté, les Ubuntu Developer Summit, notamment. Ensuite de ça, j'ai voyagé pour visiter des clients, pour participer à des implantations, toutes sortes de choses comme ça. Chez Canonical, l'employé typique va voyager un bon 25% de son temps, si c'est pas plus, tout dépendant là, des positions où on est. Considérant qu'on a, puisqu'on a des employés partout dans le monde, puisqu'on a des clients partout dans le monde, nos clients sont surtout, on s'en doute, localisés en Europe et en Amérique du Nord. C'est les deux principales pôles là, pour le marché des TI, finalement. Donc, les employés étant localisés partout dans le monde, les clients étant localisés partout dans le monde, on s'en doute, la langue d'utilisation au travail, c'est l'anglais. Après, il faut aussi considérer le fait que Canonical est à la base une entreprise britannique. Donc, c'est ça, on travaille... principalement en anglais. Yannick posait la question, est-ce qu'il y a des comment on fait si on veut travailler chez Ubuntu? Donc, il y a un bureau ici à Montréal. On présume qu'il y a des opportunités pour les gens qui viennent du Québec de travailler chez Canonical. Oui, tout à fait. En fait, je vous dirais que le fait qu'il y ait un bureau à Montréal, ça change pas tellement grand-chose, considérant que la plupart des employés font du télétravail. On a toute une liste, et puis on a plusieurs postes ouverts, je dirais un bon 20 ou 25 postes ouverts présentement. Ils sont listés sur notre site web, ubuntu.com/employment. Donc, vous allez avoir, il y a des postes pour des sysadmins, il y a des postes pour des gens qui sont aux ventes, il y a des postes pour, en fait, pour tout un paquet de positions intéressantes. Il y a malheureusement, à l'heure actuelle, pas de poste spécifiquement basé à Montréal, ce qui veut pas dire affiché, ce qui veut pas dire qu'on n'embauche pas. En fait, on est en recrutement pas mal actif, puis on cherche à Montréal ici, on cherche principalement à l'heure actuelle des ingénieurs, des architectes système de niveau assez senior, donc des personnes qui auraient au moins 5 ans d'expérience en milieu corporatif, en implantation de Linux, logiciel libre, ainsi de suite. Si vous maîtrisez bien l'anglais, si vous êtes prêt à voyager, si vous avez le profil qu'on cherche, puis si vous êtes intéressé à travailler pour un distributeur Linux de premier plan, ben moi je serais intéressé à entendre parler de vous. Donc contactez-moi par email ou sur IRC, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et puis si je crois que vous êtes un bon candidat, ça va me faire plaisir de vous référer à l'interne aussi. Mes 8 minutes tirent à leur fin, donc je vais devoir vous quitter là-dessus. Il y aurait tellement à dire sur le sujet. J'espère que Yannick va m'inviter pour éventuellement une deuxième interview, peut-être même une troisième. J'ai toujours du matériel à discuter. Ben voilà, j'espère que j'aurai pu vous éclairer un petit peu sur la question. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pour aller. Merci.
Alors, si vous avez des questions, contactez La Voix du Libre, lavoixdulibre.info. Et c'était donc une entrevue avec Étienne Goyer, qui travaille chez Canonical Québec à Montréal ou délocalisé, puisqu'en fait, ce ne sont que des bureaux virtuels. Beaucoup des employés de chez Canonical, comme vous l'aurez compris, sont répartis à travers le monde et se réunissent quotidiennement à travers IRC. Un très bon outil de communication qui remonte fort loin d'ailleurs. Ubuntu, donc Ubuntu 42, puisque évidemment Canonical et donc la communauté Ubuntu ont donc livré cette nouvelle version d'Ubuntu, la 10.10, hein, puisqu'on est en 2010 et en octobre. C'est le 10, nommé Maverick Mercat, à une date remarquable, hein, donc du 10 octobre 2010 à 10h10 en temps universel. Une choix de cette date qui flatte les technophiles barbus qui œuvrent pour ou utilisent cette distribution grand public. Et puis le chiffre 42, le chiffre porte-bonheur de tous les geeks, évidemment, vous l'aurez reconnu.
Cette version est livrée en pas moins de 8 variantes, donc Ubuntu Desktop, Ubuntu et j'en passe. Visuellement, le style est peaufiné. La nouvelle police Ubuntu s'étend pour un usage commun dans l'interface. Il est le premier système d'exploitation à prendre en charge d'office le caractère correspondant au nouveau roupie indien.
C'est vrai que Ubuntu se veut quand même multilangage, ce qui alourdit d'ailleurs les distributions CD ou DVD, et donc Ubuntu par exemple -fr qui est géré par nos amis toulousains et la communauté francophone Ubuntu allège la distribution francophone pour enlever tous les autres packages de linguistique et donc pour faire une version plus légère. Oui.
Oui, donc
On peut noter que évidemment l'édition desktop donc accueille des nouveautés GNOME 2.32, évolution un client de messagerie Agenda 2.30. Évidemment, elle est recalée avec la version long time support. Le menu de son du tableau de bord s'intègre désormais avec les lecteurs multimédia. Shootwell remplace F-Spot. Bon, des petites nouveautés logicielles. Un service de stockage en ligne personnel Ubuntu One qui s'intègre mieux avec, pour l'inscription et l'identification, ainsi que la synchronisation à distance depuis Nautilus.
Et oui, on pourra aussi noter le patchage du noyau pour le support de BetterFS, le système de fichiers qui est censé supplanter tous les pauvres autres EXT. C'est à peu près tout. Hein. C'est, tous les six mois, on peut pas faire grand-chose non plus. Hein.
Bon, c'est vrai qu'ils mettent à jour les versions logicielles. On peut noter donc les différentes déclinaisons. Hein. Donc on a les serveurs, les éditions serveurs KUbuntu basées sur KDE. On a EduBuntu, une distribution Ubuntu mais adaptée pour l'éducation. Ubuntu Studio pour de la musique. Et puis à noter dans la version 11.04, donc celle qui sortira en avril 2011, annoncé donc par Mark Shuttleworth, non-code Nati Narwhal, il donne toujours des noms d'animaux, de légendes, qui signifient le narval chic. Deux impulsions majeures qui ont été données par le dictateur bienveillant à vie autoproclamé. Premièrement, persévérer sur le travail de l'aspect visuel de la première impression à la dernière, et puis deuxièmement, tirer plus parti des puces graphiques, notamment sur l'embarqué et les micro-portables. Des nouveautés attendues sont donc GNOME 3 et Firefox 4, des news que l'on peut retrouver sur évidemment ubuntu.org et puis ubuntu-fr.org. Je te propose une petite pause musicale avec toujours notre fil conducteur musical, c'est La Fibre, artiste, regroupant des artistes. On va écouter Pas de Sassem dans nos Requiem, puisque c'est de la musique libre, de la musique en licence Creative Commons non commerciale Sampling Plus 1.0, autant qu'on se le dise. Ils sont en autoproduction, ils sont de Mio, ils sont sur Divergence Numérique.
Yo, La Fibre,
musique de combat,
toujours anti-rapitaliste, de midi.
Hésitant, il pâtit de son trac, mais il rate sa carcasse et se décarcasse pour supprimer toute classe. Internationaliste, il ne connaît pas les frontières et le mot contrat ne fait pas partie de son vocabulaire. Libre, l'autoproduit, il se produit à prix libre. Ivre et mal compris, qui tue montre chaque crime. C'est tard la nuit qu'il prend naissance, on tue. Ses ennemis d'essence au fatalisme préfèrent la résistance.
Un psychos entre les doigts, une instru en boucle dans la survoie. Posé par des missiles que j'envoie, puisqu'un rituel. Une alchimie entre piquer les PM. Dénoncer un réel cruel, il est temps qu'on se réveille. Morale qu'on sirène, ce chant donne la migraine à ceux qui l'attrapent, est-ce qu'ils c'est leur patron reine. Du pouvoir sans le vouloir, tu joues leur jeu. Tu finiras comme eux, avide et prétentieux.
Anti-taf, anti-fric, ils prennent le troc et le partage. Anti-faf, ils se rendent à leur froc à son passage. Même sous shit, s'exprime comme un beat. Mais aucune place dans ses rimes pour une quelconque taille de bite. En rupture avec ce move misogyne parce qu'on s'y sexiste. On le censure et pourtant il existe. Ne fais pas les grosses scènes, flirte avec le Larsen. Est-ce qu'on plaît à l'aise dans une ambiance malsaine?
Arrêtez le rap les gars, stoppez les dégâts. Des blatteries, des conneries, ça suffit, osez le débat. Le rap agonise mais qu'il crève. S'il le faut, le ressuscite avant qu'on en perde sa fièvre. Do it yourself, t'as la recette. Contre le rap communautaire, on pense nos sets. Un squat ou un sac de concert, faut pas rentrer dans le rang. Inspirons notre culture, car je crois que les punks s'offrent le rap, c'est franc.
Quand les lâches l'utilisent pour de la thune ou une répute, nous on le revendique juste comme une musique de lutte. Chez lui, pas de bénéf ni de subvention, non. C'est do it yourself comme réponse à leur prostitution. Sincère et humble, sous les ratures disparaît l'ego trip dans ses lyrics politiques, résistance autocritique.
Un message incrémenté et rythmique, sur du classique ou électronique. Un biquet du quotient comme gimmick, formant des réseaux indépendants, libres, sans pression, autogérés, solitaires et militants. Un rap libertaire, sans barrières ni frontières, contestataire, ouvert, sincère et universel.
Il a la couleur du sang et de la pénombre. Ses représentants des hommes, des femmes qui agissent en petit nombre, loin des circuits conventionnels et qui n'ont pas fini de te saouler avec leur crise existentielle. Avec leur crise à la fois psychique et acteur, leur détermination à elle seule suffit à faire battre son cœur. Car c'est dans l'optimisme de la lutte qu'il puise sa force. La tête haute, la révolte il amorce.
Sans censure, ça c'est sûr, le but s'immisce c'est dans la fissure. Et sans souci, faire éclater leurs murs de leur prison mentale, fatale. Écoute notre apprentie commercial, t'auras plus de détails. Respect à ceux qui luttent par la culture et fuite. Leur dictat sur des cerfs de violon ou de flûte. Le but, bouger ce quotidien à sang. Même si je sais
Ma voix, quoi, n'a pas le poids de leader convaincant.
Incapable de le décrire de manière entière. Voilà notre rap, impossible à détruire ou à faire taire. La fibre.
Là j'espère pour longtemps, y'a du taf de Kobo Sapintan dans l'underground militant.
Pas de SACEM dans nos Requiem par La Fibre, extrait de leur album La Fibre, sorti en 2010, un groupe de Millau. Vous êtes toujours sur Divergence Numérique, 93.9 Divergence FM, 104.1 et 103.3 pour nos auditeurs sur Radio Escapade. On poursuit cette divergence numérique avec la sortie de Fedora 14.
Elle est là, elle est là, elle est vraiment là. Fedora, donc on poursuit un peu sur la lancée Ubuntu. C'est pareil, un système d'exploitation libre. C'est à peu près la même chose avec quelques variantes près. On se base un peu plus sur du Red Hat, si vous connaissez. Les nouveautés pour cette version...
Il faut dire que Fedora est la... Et la succession de Red Hat, quand même, quand ils ont arrêté donc de sortir Red Hat pour Red Hat version publique, j'allais dire, puisqu'ils font des versions enterprise, il y a eu une nouvelle distribution qui est sortie du chapeau de Red Hat, c'était Fedora.
Eh oui.
Et puis on dirait que c'est un peu la course aux distributions, puisqu'il y en a une qui sort Ubuntu, l'autre Fedora, faut que ça sorte. Donc,
Ah bah c'est tous les 6 mois. Hein.
Oui, aussi.
Bon, les nouveautés, un peu moins de nouveautés comparées à Ubuntu, hein, on va faire la guéguerre, et Ubuntu c'est mieux que Fedora, ou pas.
Ils mettent toujours à jour GNOME, KDE, XFCE, oui, donc des gestionnaires de fenêtres.
Les grands habituels des gestionnaires de fenêtres.
C'est un peu le pendant des distributions. Hein. On sait qu'on peut mettre à jour au fur et à mesure du temps les différents paquets. Hein. D'ailleurs, le système vous dit qu'il y a des nouvelles versions qui apparaissent. Et donc... régulièrement, donc ils produisent une version avec des versions logicielles du moment.
Et oui, mais bon, au bout de 6 mois, il faut changer de distribution, donc c'est pas très intelligent au final.
On a OpenBSD aussi, peut-être une sortie. Avec une nouvelle chanson, c'est bien ça.
Et oui, OpenBSD, eux, ils sont bien, ils savent faire de la musique en plus.
Et oui, comme nous dit Robert F., Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, le but est d'utiliser du libre, évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur notre clavardage divergence-fm.org, rubrique chat pour nos francophones du moment. Alors aussi à noter une collaboration entre Spotimage et OpenStreetMap. Moi j'aime bien la cartographie libre et donc le 4 octobre 2010 par la voix donc de Jean-Paul Faudy, web et e-business director à Spotimage. Spotimage a annoncé la mise à disposition de la communauté OpenStreetMap du fonds cartographique SpotMap. Spot, vous savez, le satellite qui vous survole et vous photographie, attention, dans vos jardins. Ainsi, les contributeurs qui œuvrent sur la France métropolitaine peuvent désormais se servir de ce fonds comme calque d'appui pour produire des données libres à destination d'OpenStreetMap.
Ce fonds cartographique est constitué d'images issues du satellite Spot 5 et ça se caractérise notamment par une excellente précision planimétrique avec une résolution de 2,5 m. Ça rend l'intérêt mineur en ville où les contributeurs ont déjà accès en France aux données cadastrales, vectorisées et géolocalisées. Spotmap s'avère précieux dans les zones rurales et ou accidentées.
À noter aussi qu'il ne s'agit nullement d'une libération de données. Petite nuance, Spotimage ne diffuse pas Spotmap sous licence libre, mais bien d'une autorisation d'utilisation dont le périmètre et les conditions sont strictement définis. Donc de fait, l'accès est pour l'instant limité dans le temps, 6 mois, et l'espace France métropolitaine, mais il pourra être prolongé et étendu à l'issue de cette expérience. Il n'en reste pas moins que l'initiative de Spotimage mérite d'être saluée et que nous pouvons remercier donc Jean-François Faudy, d'autant plus que cette collaboration a nécessité la mise en œuvre par Spotimage de moyens dédiés et qu'elle ne se fait donc pas à coût nul. On peut retrouver ça sur la mailing list d'OpenStreetMap, openstreetmap.org, de la cartographie libre et participative.
Oui, merci Jean-François Faudy pour ces jolis fonds cartographiques qui nous permettront de faire des jolies traces GPS dans nos belles communes françaises très éloignées.
Je te propose une news suivante, peut-être VirtualBox.
Alors VirtualBox, la grande star de la virtualisation libre, on va dire.
Presque. C'était du Sun, c'est Oracle maintenant. Restera-t-il libre? Va-t-il forquer, comme on dit, ou dériver vers un projet, un autre projet, Open VirtualBox? Peut-être, on ne sait pas. L'avenir nous le dira en tout cas. Donc, une solution de virtualisation, comme tu disais, hein, il y en a d'autres, hein, VMware, Virtual PC, donc, est sortie donc, dans sa version 3.2.10 le 8 octobre dernier. Effectivement, comme on a fait quelques épisodes sur la migration Windows-Linux, évidemment, le temps roule et les logiciels sortent, évidemment.
Et dans l'attente d'une décision de la part d'Oracle, donc la maison mère qui a racheté un peu Sun, qui s'occupait de VirtualBox, VirtualBox donc reste une puissante solution GPL de virtualisation. Ça reste même pas la seule, mais la plus accessible, on va dire, et, auprès des particuliers. Elle prend quand même en charge les fameux, on va dire, normes de virtualisation des processeurs AMD 64 et Intel. Au niveau des particularités qui ont permis son acceptation chez bon nombre d'utilisateurs, citons la modularité par son interface ergonomique orientée client-serveur, l'intégration du XML, différents add-ons offrant la possibilité d'installer des supports améliorant la performance, donc Direct3D pour Windows, Microsoft, ou l'intégration de résolution graphique spécifique et de pointeurs de souris, enfin bref, plein de belles choses. Le partage de fichiers qui vous permet de partager un dossier physique sur votre machine avec le dossier de votre système d'exploitation que vous êtes en train de virtualiser, et l'USB virtuel qui permet de virtualiser vos ports USB. Enfin bref, de bien belles choses. Quand même.
Et dans une version, dans la nouvelle version, j'ai vu aussi la possibilité d'accéder à sa VirtualBox à travers un navigateur web. C'est fantastique. À noter, comme nous pose aussi Robert F., notre fidèle auditeur belge, qu'il existe deux versions de VirtualBox et certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans OSE, la Open Source Edition.
Oui, notamment l'accès à distance directement intégré dans VirtualBox, donc avoir le bureau virtuel de votre système d'exploitation virtualisé n'est pas intégré dedans. Vous êtes obligé de le faire vous-même en bricolant.
Je te propose une petite pause musicale avant de retrouver l'agenda du livre pour clôturer cette émission, toujours avec notre fil conducteur musical, le groupe de Mio, La Fibre, Vivre et ne plus subir, extrait de leur album, et c'est en Creative Commons sampling plus 1.0.
Oui,
toujours sur les ondes de Divergence Numérique.
D-A-Y-E-R, au solitaire, qui veut ne plus subir, un rayon de soleil qui transperce.
comme un vestige de notre passage. Nostalgique quand je regarde au large. Alors une pause dans ce monde de barge. Sur ce saumon, je m'arpente dans cette canine. J'ai racheté des courses qui m'habillent. Un plaisir simple, futile, des moments brefs mais utiles. Un fou rire, un délire, une lucarne qui délivre, qui t'anivre, qui ferait ne plus subir. Profite de tes proches, des instincts uniques qui s'effilochent. Des trucs de mioche, ta vie d'adulte est si moche. Notre sort n'est pas encore fixe. Alors ça pour tes kiffs comme un délice. Trouve ton oasis, abonne bord le calice. Des valeurs simples, un bonheur sain. Le respect des siens font la charpente du lendemain. Mais les belles paroles restent frivoles. L'avenir est complexe, ce n'est pas un problème d'école. C'est pas un tube à l'autrose, de l'amertume dans mes proses. La tête à la lune pour combattre la sinistrose. Mais je veux voir la vie comme Bellini. L'hédonisme comme philosophie d'un prestige pourri. Dans mon utopie comme pour Voltaire. J'utiliserai mon open care. J'ai livré des lapins sans barrière. Autiste dans mon univers. Alors je verrai la vie comme Roberto Bellini. Et je me réveillerai quand j'aurai trouvé la clé. Mon paradis. C'est très bien une vie de rêve. Savourer ce passage avec mon entourage. Mais je garde les pieds sur terre. J'ai bien que ça va être dur de rendre fier le pater et la matière. J'ai un ticket pour l'enfer. Alors que mon paradis est sur terre. J'espère éviter les obstacles, esquiver les tacles, profiter de la conscience sereine et oublier les sirènes. Mais je veux pas me rassurer parce qu'il y a pire ailleurs. Le monde sera pas meilleur tant qu'il y aura des seigneurs. Ma naïveté me fait espérer à une volte face. Ma réalité inexorablement me pousse à l'impasse. Ta vie, mon utopie n'est pas enfouie. Qu'on s'unisse, j'en fais pareil qu'on punisse. Tous ces pourris qui bannissent nos envies. Je veux pas associer bien-être et crédit. Boulimie du fric, escalade mon taf. Bref, une vie stricte, une vie triste. M'échappe de mes topés. Alors je m'enfonce dans mon délire égoïste. C'est pas un tube à l'autrose, de l'amertume dans mes proses. La tête à la lune pour combattre la sinistrose. Mais je veux voir la vie comme Bellini. L'hédonisme comme philosophie d'un prestige pourri. Dans mon utopie comme pour Voltaire. J'utiliserai mon open care. J'ai livré des lapins sans barrière. Autiste dans mon univers. Alors je verrai la vie comme Roberto Bellini. Et je me réveillerai quand j'aurai trouvé la clé. Mon paradis. Les beaux moments restent éphémères, quand les mauvais persévèrent. Alors pendant que le temps est sévère, j'oublie mes galères. Y'a pas de soucis, ma vie n'est pas un drame. À l'inverse de ceux qui résument la leur par des larmes. Alors je rame dans ma barque, j'divague. Mais ce morphon ne fera que garder mes chimères intactes. L'espoir fait vivre, but tout destin. C'est à toi de l'écrire, sois libre. Un reste à l'auteur de ton livre. Je veux pas la fortune de Jean-Marie Messier. Non merci, c'est pas l'idée que je me fais du bonheur. Il en est ainsi, je vieillir avec le sourire. Ne pas finir seul, car c'est ensemble qu'on va bâtir notre empire. Mais ces rêves d'espoir, je les trouve que dans mon plumard. Et chaque réveil, je pousse mes résolutions à plus tard. Je prends mon mal en patience. Ma vie n'est pas une pénitence. Faudrait que je cherche ma voie avec pertinence. La vie, la vie.
Et oui, on va jusqu'à la fin des morceaux ici sur Divergence FM, Divergence Numérique. Et puis Radio Escapade, vous qui nous écoutez sur le 104.1, 103.3 et le 93.9 de Divergence FM. C'était Vivre et ne plus subir par le groupe La Fibre, un groupe de Millau. On va attaquer l'agenda du libre pour finir cette émission avec des Ubuntu parties un peu dans toute la France.
Alors oui, on a le rendez-vous habituel demain, donc vendredi, à Kawanga, boulevard Louis Blanc, à partir de 14h jusqu'à 19h.
Oui, c'est les ateliers libres de Montpellier Libre.
Oui, les ateliers libres, les points libres, les noms qu'on veut. Bon, organisé par Montpellier Libre, comme d'habitude. Donc, un accueil, des animations. On pourra retrouver Guillaume Killy qui nous parlera de Mandriva. Et de toutes les péripéties qu'ils rencontrent en ce moment avec la distribution.
Mmh. Un atelier sur Blender aussi à Toulouse ce samedi 6, à Paris de l'Ubuntu Party, à suivre sur Oxy Radio. On peut noter aussi à Grenoble la Free Open Software Academy conférence, donc c'est le 8 novembre. Et puis toujours à Paris, un forum PHP 2010. Et puis le 12, à Téhéran, à côté de chez nous, les ateliers libres PAO MAO. Il s'agira de formation sur Audacity. On va vous dire à la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine. Merci de nous écouter, merci de votre fidélité, puis restez libre. Weapons of mass destruction. Uh-oh. Weapons of mass destruction. Uh-oh. Nuclear. Weapons of mass destruction. They will not hesitate to use them. They will not hesitate to use them. Weapons of mass destruction. They will not hesitate to use them. They will not hesitate to use them.